Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, je te propose aujourd'hui le replay d'une Room Clubhouse de janvier 2023 autour des cris, les cris des enfants et les cris des parents. Comment faire autrement pour communiquer sans crier? Pourquoi est-ce qu'on en vient à crier sur nos enfants? Comment faire autrement? Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur une room du club des petits plus zen. C'est un sujet que j'aborde souvent, le fait de crier à la maison, le fait qu'il y ait des tensions, le fait qu'il y ait des émotions fortes. C'est évidemment le cœur de mon métier maintenant d'accompagnante, parce que quand les parents viennent me demander comment faire pour que mes enfants écoutent, comment faire pour que mes enfants respectent les règles que je pose, comment est-ce que je peux faire obéir mes enfants. Donc ça, ce sont plein d'angles et de questions que je reçois très souvent. Et je commence par leur dire à tous, en fait, je ne vais pas faire obéir vos enfants, je ne vais pas non plus les faire vous écouter. Par contre, je vais les intéresser à ce que vous proposez parce que vous-même, vous prenez en compte leurs besoins aussi bien que les vôtres. Donc une première partie de mon travail, c'est de vous faire comprendre qu'en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, vous avez autant de besoins à nourrir que vos propres enfants. Et quand on devient parent, on met en priorité les besoins de nos enfants, notamment la première année. On les nourrit, on les soigne, on les cocoonne, on les câline. Et puis en grandissant, on perd de vue qu'il y a d'autres besoins sur leur arc-en-ciel de besoins. Il y a aussi des besoins de relations, il y a des besoins d'autonomie, il y a des besoins d'indépendance, il y a des besoins de compréhension, il y a des besoins d'expression et il y a des besoins de détente. Donc on en connaît quelques-uns, on connaît une bonne dizaine de besoins sur nos enfants. Et je vous invite à vous renseigner sur l'amplitude de chacun de nos besoins humains. Parce qu'en réalité, maintenant, sur mon éventail et mon arc-en-ciel de besoins, on en est à peu près à 166 besoins. Chaque personne qui est là a en réalité 166 besoins à nourrir dans sa vie personnelle, dans sa vie intrapersonnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vous détendre, vous allez avoir besoin de vous reposer, de manger, de vous hydrater, de vous mettre à l'abri, d'être confortable, d'être autonome, de vous sentir libre. Et tous ces besoins-là, en tant qu'adulte, on ne sait déjà pas les satisfaire, on ne sait déjà pas les nourrir. Et il est bien difficile ensuite de le faire avec nos propres enfants, puisque nous-mêmes, on n'a pas pris l'habitude de nourrir au maximum nos besoins. Plus on aura la clarté sur nos besoins à nourrir en tant que parent, en tant qu'adulte, et c'est valable aussi dans votre métier, c'est valable aussi dans votre lien avec votre partenaire de vie, et plus on va l'incarner auprès de nos enfants, et ils n'auront plus qu'à regarder comment on fait nous, comment font les adultes autour d'eux qui ont réussi à comprendre cette autonomie émotionnelle, cette indépendance de besoins, à ne plus faire porter les besoins qu'on a, nous, sur la responsabilité des autres. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, tout ça peut vous paraître un peu confus, donc il y aura plein d'occasions de rediscuter de ces sujets-là en large et en travers, notamment aussi sur Instagram, sur les publications que je propose et dans le podcast qui s'appelle aussi Les Petits Plus Zen. Sur cette question des cris, ce que j'aime beaucoup rappeler aussi, c'est que la personne qui crie, c'est une stratégie un peu tragique parce qu'elle n'a pas trouvé comment faire autrement. Que ce soit vous qui criez, que ce soit votre partenaire ou que ce soit votre enfant, les trois personnes qui se mettent à crier, c'est comme un désaveu, c'est comme une faiblesse, alors non pas dans le sens de jugement, mais dans le sens qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'autre moyen de réagir différemment. À ce moment-là, on ne savait pas comment faire mieux. On ne savait pas comment faire autrement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres façons de faire. on peut agir autrement qu'en criant. Et ça, vous le savez déjà. Mais la petite impuissance qu'on me confie souvent en séance ou en suivi, c'est que il arrive un moment où on se sent tellement débordé par nos propres émotions, par nos propres flammes dans notre cheminée des émotions. Ça, c'est l'épisode 9 et 10 du podcast, si vous avez envie d'en savoir plus sur cet outil que je pratique dans toutes les séances que je fais. C'est que nous, quand on est débordé, quand on est frustré, quand on est triste, quand on a quelque chose à régler, par exemple au travail, on n'a plus la disponibilité possible de parler à nos enfants ou à notre mari ou à notre belle-sœur qui nous appelle pour nous rappeler pour la 12e fois de penser à prendre le rôti pour dimanche pour la réunion de famille. À ce moment-là, on est incapable de ne pas crier. La première piste que je pose aujourd'hui sur ce sujet des cris à la maison, c'est de vous dire que quand on crie, c'est que la stratégie qu'on emploie est la seule qui nous paraît possible à l'instant présent. Comment faire autrement ? Il va y avoir plein de choses à faire en place. Il va y avoir plein de conscientisation à mettre sur « oui, il y a d'autres stratégies sur notre éventail. On peut faire autrement que crier, même si à ce moment-là, crier nous paraissait la meilleure option. » Je vous invite à vous mettre de l'autre côté, vers la personne qui reçoit les cris. Alors, imaginons que ce soit vous qui criez ce jour-là parce que vous êtes excédé, parce que vous êtes fatigué, parce que ça fait partie de la vie de maman et qu'on a toutes, à un moment donné, crié sur un de nos enfants ou crié sur notre partenaire de vie. Hein, je ne vais pas m'exclure de ce tableau parce que, bien entendu, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de crier. Et moi aussi, j'ai regretté après d'avoir crié, mais je me suis dit, je ne savais pas faire autrement ce jour-là. C'est que quand nous, on crie, la personne en face a un moment de sidération, à un moment où il voit qu'on est complètement dépassé par notre émotion. Alors quand c'est un adulte, il fera la part des choses, hein, il fera son travail de son côté, il fera sa responsabilité émotionnelle. Mais ce qui est un peu plus délicat, c'est quand c'est sur un enfant, notamment un enfant entre 2 et 7 ans, qui n'a pas du tout la maturité intellectuelle et le cerveau rationnel qu'on pourrait avoir avec des enfants plus âgés, avec des ados ou avec des adultes. Notre enfant, quand il nous entend crier, il va se bloquer comme un animal qui a peur de mourir. Il va se bloquer parce qu'il sent qu'il est en danger physique. Donc, c'est généralement pas ce qu'on veut provoquer avec nos enfants. C'est généralement pas les conséquences qu'on voudrait amener dans notre relation familiale, dans notre relation de couple ou même dans notre relation de travail. Mais si vous revisitez un souvenir où vous êtes mis à hurler et à crier sur quelqu'un récemment, rappelez-vous que la dernière fois que vous avez crié sur quelqu'un, déjà, peut-être que vous, ça vous a déchargé un peu de votre émotion, mais c'est même pas sûr, parce qu'après, on voit les conséquences sur la tête de l'autre. Mais qu'en plus, l'autre, justement, quand il nous entend crier, quand il nous voit hurler, il se dit, mais il se passe quoi dans sa vie, il se passe quoi dans sa tête pour qu'elle se mette dans cet état-là? Et si vous êtes des femmes qui m'entendez, là, vous sentez bien que le reproche sous-jacent d'une femme qui se met à crier, c'est tout de suite, au niveau patriarcal, qu'elle est hystérique, elle ne sait pas se contrôler, elle ne sait pas se gérer. Et on en revient tout de suite à l'émotion qu'elle est en train de transmettre maladroitement, hein, parce que la façon qu'on a de crier est parfois maladroite. C'est juste une expression comme une autre de ce qu'on n'arrive pas à faire passer comme message de manière calme. Que ce soit vous qui criez ou que vous vous souveniez d'un autre moment où quelqu'un vous a crié dessus, que ce soit votre parent quand vous étiez petite, que ce soit votre partenaire, votre collègue ou même votre enfant, puisque les enfants aussi reproduisent ce schéma-là, quand ils sont débordés, ils se mettent aussi à crier, c'est d'aller voir que ce cri, cette solution, ce choix qui a été posé de stratégie de communication est maladroite, mais était un mode d'expression quand même. Quand on se met à crier, c'est qu'on n'a pas réussi à l'exprimer autrement, parce qu'on n'a pas eu la disponibilité dans notre cœur, dans notre émotion, de faire plus posé, de faire plus explicite, de faire plus calme. Alors tout ça, ça doit vous paraître très logique quand je le détaille comme ça, et vous avez envie peut-être de savoir, donc comment on fait? Comment on fait pour pas crier sur notre enfant quand il renverse pour la 12e fois sa purée de brocoli? Comment on fait quand notre mari, à qui on avait répété 14 fois la même chose, n'a pas fini par appeler le plombier ou n'a pas fini par faire la tâche que vous lui avez demandée? La répétition faisant partie de l'éducation, notamment pour les enfants, la répétition faisant partie du mode de communication classique, hein, Même au travail, on est obligé de répéter à nos collègues, à nos prestataires, à nos clients, à nos supérieurs, ce qu'on a fait, où on en est, ce qu'il reste à faire. L'expression au quotidien est une planche de salut. Donc la sortie pour éviter de crier, ça va être de se dire, moi, comment je vis la situation actuellement? Qu'est-ce que j'attends de cette situation? Et le décalage que j'ai entre ce que je voulais et ce que je constate me fait vriller, me déclenche une flamme de frustration, de colère, d'agacement, de rage, d'énervement. Donc quand j'observe ce que j'observe ou quand j'entends ce que j'entends, c'est tellement en décalage avec ce que j'attendais de la situation ou de la vie que direct je me mets à crier sur mon enfant, sur mon mari, sur ma collègue. Mais ce décalage en fait que vous avez senti entre ce que vous voyez et ce que vous vouliez, il est là, quoi qu'il arrive. Que vous criez ou pas, il est là. Donc, si j'avais qu'une seule phrase aujourd'hui à vous proposer, c'est de vous dire que vous alliez crier ou non sur la personne qui vous a révélé à quel point le décalage de la situation que vous pensiez est grand, de toute façon, même si vous ne criez pas, le décalage sera encore là. Donc, si on ressortait de cette conversation juste avec ça, ce serait de se dire que je crie ou non, ça ne changera pas les faits. On en revient aux faits. Ce que vous pensiez, ce que je pensais de la situation n'est pas ce qui est. Et à partir de là, on va pouvoir créer plein d'espaces et plein de stratégies différentes. Déjà, une des solutions, ce serait de se dire très posément, c'est pas du tout ce que je croyais. C'est pas du tout ce que j'attendais de toi. Je ne me suis pas imaginé ça. Juste de sortir ça et d'exprimer le décalage entre ce qu'on pensait de la situation et ce qu'on voit réellement peut nous amener à libérer une partie de l'énergie, de cette flamme, de cette rage qui commençait à bouillonner en nous quand on s'est rendu compte que l'enfant ne fait pas ce qu'on attendait, que le mari ne fait pas ce qu'on attendait, que le patron n'a pas respecté sa part du marché. Quand on est déçu, quand on est en colère, quand on est frustré, quelle que soit la flamme que vous ayez dans votre cheminée des émotions, elle vient vous amener vers une prise de conscience du besoin qui n'allait pas. Votre besoin d'avancée, de réalisation, d'accomplissement, de connexion, de douceur, de calme, tous les besoins que je vous ai cités en tout début de room qui appartiennent à votre arc-en-ciel de besoins, si vous ne les aviez pas nourris avant d'arriver à ce point-là de votre journée, ils vont se mettre à clignoter comme des guirlandes de Noël. Vous allez vous rendre compte de tout ce qui n'allait pas sur votre arc-en-ciel de besoins, et c'est ça qui va déclencher votre frustration, votre colère, votre agacement, votre tristesse. Au lieu de rendre responsable l'enfant, le mari, le conjoint, le patron, la collègue, etc., hein, remplissez les pointillés, je vous invite à juste voir que c'est ce que la situation vous fait résonner comme manque et comme frustration dans votre cheminée, qui elle-même est liée à l'état de vos besoins actuels de connexion, de relation, d'autonomie, de douceur, de détente, de compréhension. Et à ce moment-là, la solution que vous aviez choisie, ça a été de crier. Mais en aucun cas, le cri est la seule manière de s'en sortir. Et en aucun cas, le cri va faire avancer la réalité. Donc, ce sont des concepts que je présentais au papa et aux mamans que j'avais en classe, qui m'expliquaient très tranquillement et avec beaucoup d'humilité qu'à la maison, ça criait, ça tapait, et que c'était comme ça parce que c'est le parent qui décide et que les enfants n'ont rien à dire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à construire tous les outils des petits plus zen. En entendant que le rapport de force qui se crée dans le cri, donc le cri est une partie des violences éducatives ordinaires, on pourra y revenir si vous voulez, mais la façon de crier sur un enfant ou qui que ce soit d'autre montre qu'on a été dépassé, nous, dans notre émotion, dans la gestion de nos besoins, dans le fait de comprendre ce qui se jouait pour nous et qu'on a essayé, en criant, de le faire porter, alors soit dans une intention de le partager, hein, dans un mode d'expression, ou alors, dans des cas un peu plus toxiques, on a essayé de faire porter sur l'autre toute notre insatisfaction de la situation, de la frustration ou du décalage qu'on avait entre ce que l'enfant fait et ce qu'on voulait qu'il fasse. Si on prend un exemple très concret, vous allez au restaurant, il y a de l'attente, l'enfant s'impatiente, il ne sait pas quoi faire, il commence à taper du pied dans les cailloux de l'allée, il commence à faire entre guillemets des bêtises. Mais si vous vous mettez à crier sur votre enfant parce qu'il est en train de secouer la terre et le gravier de l'allée du restaurant, ça n'a rien à voir avec ce que fait votre enfant, le problème. Le problème, c'est qu'il y a de l'attente dans le restaurant. Le problème, c'est que vous pensiez passer vite, vous installer, manger, et que ce temps-là est perdu, ou ce temps-là vous agace. Donc ça montre plus que vous êtes agacé d'attendre, de rien faire, et que pendant ce temps-là, votre enfant, il s'ennuie. Et si on regarde ça sur la colline de votre enfant, c'est tout à fait normal de s'embêter. Un enfant, rester debout à rien faire, c'est pas sa fonction première. Il n'a pas été livré pour ça. Un enfant, il est livré pour agir, comprendre, sauter, bouger. À chaque fois qu'on demande à nos enfants d'être sages, à chaque fois qu'on demande à notre enfant de se tenir tranquille, on se trompe de réalité. On se trompe de fonctionnement. Donc, dans l'exemple du restaurant, si je me mets à crier sur ma fille parce qu'elle commence à faire une bêtise, ce que je requalifierais autrement, hein, il y a un épisode consacré aux bêtises, je crois que c'est l'épisode 42 peut-être sur les bêtises, mais en réalité, l'enfant, lui aussi, il est en train de manifester que c'était pas son envie première d'attendre debout dans une file d'attente devant un restaurant. Donc, chacun pose des actions au quotidien pour nourrir son besoin actuel, son besoin urgent, son besoin prioritaire, son besoin clignotant. Si on ne fait pas attention à ça, on pourrait se méprendre sur leur comportement et on pourrait se mettre à crier en leur reprochant quelque chose qui est normal. Donc la prochaine fois que vous avez envie de crier sur quelqu'un, et je vais me l'appliquer à moi, hein, parce que moi aussi, des fois, je me mets à hurler et à crier, mais la prochaine fois que vous aurez envie de crier sur quelqu'un, demandez-vous, ok, là, je suis en train de vouloir extérioriser ce qui se passe pas bien dans ma cheminée des émotions. Je suis en train de vouloir exprimer que j'ai un besoin non satisfait, mal nourri, qu'il y a quelque chose dans mon attente et dans ma réalité qui ne va pas bien chez moi, sur ma colline. Et est-ce que je veux l'exprimer juste pour que ça sorte de moi? Ça, c'est intéressant, c'est un mode d'expression, hein. Quand on souffle très fort, quand on est très énervé, c'est aussi un mode d'expression. Ça, c'est ce qu'on peut enseigner à nos enfants quand ils sont très en colère, de souffler très fort ou de taper des pieds, d'extérioriser. Mais on pourra voir ça plus tard aussi si vous le souhaitez. Mais nous, en tant qu'adultes, de juste nous demander, est-ce que je suis juste en train d'exprimer que ça va pas bien, que je ne sais pas comment est ma flamme, que je ne sais pas comment sont mes besoins et que je suis en train d'introspecter et de scanner intérieurement comment ça se passe pour moi? Ou alors, est-ce que je suis en train d'essayer maladroitement de reprocher à la personne en face d'avoir provoqué ça? Et ça, c'est vraiment une prise de conscience capitale, que vous soyez parent ou non, de cesser dès aujourd'hui, donc là, d'arrêter définitivement de reprocher aux autres l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez actuellement. À chaque fois que vous commencez à crier sur quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je prends la pleine responsabilité de ce que je suis en train d'exprimer, ou est-ce que j'essaye de lui reprocher ma colère, ma frustration, ma tristesse? Quand on crie sur son enfant parce qu'il a fait tomber le vase, on ne crie pas vraiment sur son enfant qui a fait tomber le vase, parce qu'une partie de notre cerveau sait très bien qu'un enfant, ben, ça peut être maladroit, un enfant, ça ne maîtrise pas bien ses gestes. On crie parce qu'on aurait voulu que ce vase reste entier, qu'on aurait voulu éviter de ramasser, que ça nous fait perdre notre temps, qu'on était attaché à ce vase. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on se met à crier, mais en aucun cas on se met à crier parce que c'est la faute de notre enfant si on a envie de crier. Et ça me paraît vraiment très important de voir que quand on reproche à notre enfant d'être en colère, quand on reproche à notre enfant d'être triste, on lui fait porter une responsabilité émotionnelle qui n'est pas du tout de son âge, qui n'est pas du tout de son ressort. Et comme on est l'adulte, et que là je prends une situation parent-enfant, je vous invite à voir si vous avez été élevé comme ça, mais quand on crie sur notre enfant, quand on lui fait porter notre responsabilité, quand il va devenir adulte, il y a un risque qu'à son tour, il prenne en charge les émotions des autres. Il ne sache plus faire la différence entre ce qu'il ressent lui-même et ce qui est porté par quelqu'un d'autre. Et je vous en parle avec toute humilité parce que j'ai découvert ça seulement en 2015. J'ai compris seulement en 2015 que j'avais porté les émotions de tout le monde autour de moi au lieu de ne porter que les miennes. C'est une vraie libération de se rendre compte que je ne suis pas responsable de votre tristesse, de votre colère, de votre agacement. Je peux être en empathie avec elle. Si vous venez me voir aujourd'hui en me disant « j'en peux plus, j'arrive plus avec mon mari, on ne se comprend plus, la nounou, ça ne se passe pas bien avec mon enfant », je vais pouvoir compatir, je vais pouvoir être en résonance avec votre émotion, mais je ne vais pas la prendre en charge. Parce que justement, cette émotion, elle est hyper intéressante pour vous à regarder en face. Cette flamme, on va la scanner ensemble. On va voir ce qu'elle veut nous dire. On va voir comment est née cette tristesse, cet agacement, cette rage, cette peur, ce doute, cette culpabilité sont nés parce qu'il y avait eu un décalage entre ce que vous attendiez, ce que vous aviez besoin et ce que vous constatez dans les faits. Donc, je ne prendrai pas en charge votre tristesse, votre colère, votre émotion, ni votre joie d'ailleurs, parce que quand vous êtes heureux, quand vous êtes triste, ce sont des choses qui sont intérieures. On va l'exprimer, on va essayer de le partager avec les autres. Alors, quand c'est des émotions plutôt agréables, c'est génial de célébrer une promotion, un déménagement, un mariage. Tout ça, ce sont des émotions faciles à partager. Et dans ces cas-là, on pourrait se sentir co-auteur de l'émotion, co-responsable de cette joie, de ce positivisme. Mais quand c'est plus difficile, et on peut prendre un exemple très concret, si vous êtes allé à un enterrement dernièrement, il y a des gens qui ne savent pas comment communiquer sur une émotion de tristesse, de deuil. Il y a des gens qui minimisent, il y a des gens qui vont réduire en disant « oui, ça va passer, c'est pas grave ». Mais tout ça, c'est pas prendre en compte l'émotion de l'autre. Tout ça, c'est juste reculer parce qu'on a peur que l'autre nous contamine avec sa propre émotion, parce qu'on a peur d'être impacté par les émotions des autres, parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment gérer un deuil. Observez autour de vous les gens qui minimisent les émotions, qui font porter les émotions sur les autres ou qui eux-mêmes ne savent pas du tout appréhender leurs émotions. Et je pourrais en parler pendant des jours et des jours, parce qu'au quotidien, la plupart d'entre nous ont été élevés comme ça. Et je l'entends encore quotidiennement. Quand je vais au parc avec ma petite, j'entends encore des mamans qui disent « Non, non, tu fais pas ça, hein. Tu écoutes maman, hein. Tu fais plaisir à maman, hein. Sinon maman, elle va être triste. » Je vous invite à écouter tout ce qui se cache derrière tout ça. Quand la maman fait porter son bonheur et sa tristesse sur l'action et le comportement de son enfant. Quand la maman fait porter son état émotionnel à son enfant de 2, 3, 4, 5 ans. Quelle est la responsabilité qu'on donne à nos enfants quand on ajoute cette petite phrase « Fais plaisir à maman ». Oui, maman est contente de toi. Maman est heureuse quand tu fais ça. C'est de l'amour conditionnel. C'est une responsabilité émotionnelle qui nous lie comme une dette. Est-ce que je fais porter ma frustration, ma tristesse, mes peurs, ma colère à quelqu'un d'autre que moi, que ce soit mon enfant ou non, je peux l'arrêter tout de suite. Je peux l'arrêter tout de suite en reprenant la responsabilité de mes émotions, en reprenant la responsabilité de mes besoins et en arrêtant de me passer comme victime du monde extérieur, comme victime du comportement des autres. Donc toutes ces notions, elles sont très complexes. C'est vrai que si vous me découvrez là aujourd'hui sur Clubhouse, je peux comprendre que ce soit des notions très très compliquées à mettre en réseau, à mettre en lien et que ça résonne peut-être avec une perspective que vous n'êtes pas prêt à regarder en 2023 et je comprendrais tout à fait que ce ne soit pas le bon moment pour vous. Le fait de connaître ça, je vais vous dire que ça va avoir deux transformations majeures dans votre vie. La première, c'est que plus personne ne va essayer de faire porter ses émotions sur vous. C'est comme si vous alliez installer un barrage à vie de contamination émotionnelle. Et je vais vous pinguer le lien tout à l'heure de cet épisode-là parce qu'il fait un peu la bascule dans les gens que j'accompagne. En général, c'est un épisode qui parle beaucoup. C'est le 71. Et la deuxième chose, c'est que quand on prend conscience de tout ça, on arrive à être en toute humilité avec nos enfants. Et à leur dire très tranquillement, écoute, la maman, elle est très triste parce qu'elle pensait avoir fini son dossier en une heure et elle voit qu'elle n'a pas fini. Donc elle se sent triste, mais ça n'a rien à voir avec toi, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec toi, mon chéri. C'est de maman à maman. C'est de maman avec son besoin de finir. C'est de maman avec sa vision de son travail. Et vous voyez à quel point ça va libérer les gens autour de vous, non seulement de vos propres émotions, non seulement ils vont pouvoir vivre leur propre vie de leur côté, et en ce sens-là, c'est exactement l'éducation qu'on voudrait installer avec nos enfants, qui se sentent suffisamment libres pour tester leurs expériences sans avoir peur que maman dit « Ah non, maman est fâchée, hein. Ah tu as rendu triste maman, maman elle t'aime plus. » Et ce sont des choses que j'entendais toutes les semaines quand j'étais enseignante. Toutes les semaines, j'avais des parents qui faisaient porter leurs propres émotions sur des élèves de 2, 3, 4 ans. Donc quand ils venaient chercher leur enfant le soir et que j'entendais ces phrases-là, j'avais le cœur intérieur qui saignait de me dire « Le pauvre petit bout, il a 3 ans et il pense qu'il est responsable du bonheur de son parent. Il pense que c'est lui qui provoque du bonheur ou du malheur dans la vie de son parent. Est-ce que vous pouvez comprendre que l'ampleur de l'éducation traditionnelle, et je parle de toutes les cultures, hein, et de toutes les religions, parce qu'en Ré+, on avait vraiment un grand réseau de parents différents, donc que ce soit des personnes qui étaient nées en France, des personnes qui étaient nées à l'étranger, des personnes qui avaient réfléchi à leur parentalité ou non, certains faisaient encore porter leur propre bonheur sur les épaules d'un enfant de 3, 4, 5 ans. Alors, ces raisons-là, on pourrait les expliquer pendant des heures, on pourrait faire une room entière hein, sur ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'enfants, qui nous fait reproduire ça, ou sur l'angle des conséquences que ça peut porter sur un enfant quand on fait porter nos propres émotions sur eux. Mais ce que j'ai envie d'apporter comme pierre supplémentaire, là, aujourd'hui, c'est que quand on a un enfant, maintenant, c'est un tel prolongement de nous, c'est un tel accomplissement d'avoir un enfant, de bien l'élever et de mettre sur terre hein, ce petit être qui va devenir à son tour citoyen, qu'on se doit de faire ce travail-là pour nous et pour lui. Et ça va libérer les deux côtés de l'écharpe relationnelle. Sur notre colline à nous, on va se libérer de ne plus faire porter nos émotions à nos enfants. On va aussi se libérer de tout l'héritage qu'on a reçu de nos propres parents. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal, hein. J'en parle régulièrement dans les rooms et sur le podcast, c'est que c'est très très difficile de comprendre maintenant, avec ces 7 ans autour du travail des émotions et des enfants, que j'ai dû moi-même casser cette chaîne-là parce que ma mère ne l'avait pas fait, parce que ma grand-mère ne l'avait pas fait, etc. Mais il y a un point où ça doit être fait. Donc peut-être que c'est vous qui allez casser cette chaîne. Peut-être que c'est votre enfant qui cassera cette chaîne. Mais quelqu'un dans votre lignée, quelqu'un dans votre généalogie doit un jour casser la chaîne de « on n'est pas là pour rendre heureux nos parents, on n'est pas là pour rendre heureux nos enfants. On est là pour nourrir nos propres besoins, pour avoir des relations apaisées avec les gens autour de nous, mais je ne suis pas responsable de la tristesse de mon ado. Je ne suis pas responsable de la colère de ma petite. Je ne suis pas responsable de la frustration professionnelle de mon conjoint. » Pourtant, on a été élevé dans le soin, on a été élevé dans l'écoute, on a été élevé dans l'empathie. Vous êtes peut-être comme moi sur ce point, et dites-moi dans le chat si ça vous parle, tous ces éléments-là. Parce que quand moi j'ai commencé à être enseignante, mais j'absorbais les émotions de tout le monde, c'était insupportable. Je ne sais pas comment j'ai tenu 22 ans. Parce que le moindre enfant qui pleurait, la moindre collègue qui me parlait de son couple, la moindre directrice qui pleurait à cause des charges, j'absorbais toutes ces émotions-là en me disant « c'est pas juste, je suis triste pour elle, comment l'aider ?» Et en fait, je vois que cette empathie était mal proportionnée. Cette empathie, elle n'était pas cohérente, elle n'était pas équilibrée. Cette empathie, elle finissait par me faire souffrir moi-même au lieu d'aider les gens autour de moi. Et d'avoir retrouvé la juste place entre savoir écouter l'autre avec empathie, avec compassion, lui faire reformuler pour qu'il soit à nouveau acteur de son émotion, qu'il trouve lui-même ses clés. Donc c'est toute la démarche d'un coaching, c'est toute la démarche d'un accompagnement, même des thérapeutes aussi font ça par la parole et d'autres outils. Mais ça, c'est aider vraiment l'autre autour de vous. C'est lui faire prendre conscience qu'il a une vision des choses qui n'est pas tout à fait la meilleure pour lui, qui le fait souffrir sur le long terme. Tant que je me sens responsable de la tristesse de mon enfant, de la colère de mon conjoint, de la frustration de mon patron, je ne peux pas avancer en toute liberté et en toute autonomie. Alors, si jamais vos besoins de liberté et d'autonomie sont super bien nourris, sont à 100% de votre arc-en-ciel, tant mieux pour vous. Mais c'est rarement le cas. Ce qui fait que quand nous, on est en petite baisse de régime, qu'on est un peu triste, qu'on est en train de se morfondre à manger des chips sur notre canapé en regardant Netflix, ce qui m'arrive aussi, hein, rassurez-vous, c'est juste qu'on a, à ce moment-là, besoin de regarder où on en est, nous, sur nos besoins, sur nos émotions, au lieu de rendre les autres responsables. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'ai commencé à me mettre en couple, mais je rendais mon conjoint systématiquement responsable de ma frustration. J'étais toujours en train de dire « c'est à cause de toi si je suis malheureuse, c'est à cause de toi si je suis triste, tu ne m'en rends pas heureuse, etc. » Donc, je vous invite à revisiter aussi ces souvenirs-là, si vous en avez. Est-ce que vous vous sentez responsable de l'autre, mais est-ce que vous-même, vous faites porter parfois votre bonheur sur ce qui se passe dans votre vie relationnelle? Et maintenant que j'ai détricoté tout ça, maintenant que je comprends d'où ça me vient, pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça? Parce que ma mère me faisait porter ses propres émotions pendant des années et des années, parce qu'elle n'a pas mis ce barrage émotionnel entre ce qu'elle vivait elle-même et ce que moi je vivais en tant que petite fille, puis jeune fille, puis grande fille. Je suis pas en train de faire un gros boulet à charge contre ma mère en tant que mère, parce qu'elle a fait comme elle a pu au moment où elle avait été élevée comme ça, elle-même avec sa propre mère. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est de se dire comment je fais pour sortir de la contamination émotionnelle que je ressens depuis ma mère et que je suis en train de faire porter à ma grande fille. Quand ma grande fille est née en 2007, j'ai voulu faire à l'opposé de ce que j'avais vécu moi en étant petite. J'ai voulu faire autrement. C'est un mot que je retrouve dans la plupart des accompagnements des clientes qui me contactent. C'est le moment où on veut faire autrement par rapport à nos parents qu'on se dit, mais je ne sais pas trop faire autrement. Parce que j'ai été imprégnée de cette façon de faire. Comment ne pas faire porter mes émotions sur mes enfants alors que moi, toute mon enfance, on m'a fait porter leurs émotions sur le dos. Comment être indépendant émotionnellement? Comment être autonome émotionnellement quand on ne l'a jamais appris? Et ça demande un travail introspectif, ça demande un travail très difficile, ça demande un travail qui, je crois, ne peut pas être fait tout seul, parce que bien entendu, je me suis fait aider par des psychothérapeutes, je me suis fait aider par des coachs, je me suis fait aider par des lectures, par des formations en ligne. Mais une fois qu'on a compris que notre enfant, quoi qu'il fasse, ce n'est pas son comportement qui nous met dans cet état émotionnel, mais c'est le décalage entre ce qu'il a fait et ce qu'on en attendait. Mais à ce moment-là, votre vie de maman, votre vie de parent change complètement. Parce que vous ne vous sentez plus responsable des émotions de votre enfant. Vous vous sentez uniquement responsable de ce que vous avez attendu, de ce que vous avez compris de lui, de ce que vous aviez mis en place de lui. Et ça peut être ajustable à tout moment. Pour mettre en place une relation parent-enfant qui soit sereine, qui soit apaisée, où on ne lui crie plus dessus parce qu'on ne lui reproche plus un comportement qui n'était pas adapté à ce qu'on attendait, ça veut dire prendre en compte que son développement n'est pas au stade qu'on croyait, que ses actions ne sont pas aussi fiables que ce qu'on croyait, que l'impermanence au quotidien est là, dans n'importe quelle relation. Que ce soit avec votre partenaire de vie, avec votre enfant, avec votre sœur, avec votre patron, vous avez des attentes de cette journée qui vont peut-être matcher ou qui vont peut-être s'étaler, mais à 100%. Donc plus on a d'attentes sur le comportement des gens autour de nous, comme si on en était responsable et comme si on avait un moyen de contrôle sur eux, plus on s'égare en fait dans la relation et plus on risque de s'énerver et de crier. Alors que si on se dit, je vais poser mes actions, je vais expliciter mes besoins, je vais donner des repères, je vais donner un cadre, je vais donner des limites. Mon enfant, dans ce cadre, dans ses limites, dans ses explications, va faire sa propre expérience, va agir en fonction de son arc-en-ciel de besoins, va agir en fonction de ses flammes d'émotion dans sa propre cheminée. Et quand il va agir, eh ben, on va voir si c'est compatible avec ce que j'attendais ou si on doit réajuster. Mais le fait de crier ne va pas changer spontanément la donne. S'il a fait cette action-là, c'est qu'à son stade de développement, à ses besoins qui clignotaient et à son état des flammes de cheminée, il ne savait pas faire autrement. Donc ce n'est pas la peine de juger, de crier, de taper, de punir, de hurler. Ça ne changera rien. Donc toutes les violences éducatives ordinaires, et un jour je ferai un épisode sur ce sujet parce que c'est quand même très important, que ce soit crier, que ce soit punir, que ce soit taper, que ce soit lui dire qu'il fait des caprices, des bêtises, et ça, il y a un épisode dessus, je crois que c'est le 42. À un moment donné, c'est nous qui posons une étiquette qui n'est pas juste dans la relation qu'on a avec notre enfant. Si je me mets à crier sur lui, c'est moi qui dois me poser des questions sur mon émotion et sur mon besoin. Et le faire en direct est très difficile. Donc je vous invite à faire ça quand vous n'êtes pas en plein milieu de l'océan et qu'il y a une tempête. De faire ça au calme quand tout va bien et de vous apprivoiser en disant comment je me sens actuellement. Comment je vis ce que je vis? Pourquoi est-ce que ça me fait vriller à ce point-là? Pourquoi est-ce que je me mets dans cet état-là? D'analyser vos réactions émotionnelles régulièrement, en dehors de la présence de votre enfant, en dehors de la présence des déclencheurs ultimes. Parce que comme je vous disais, moi, dès que ma mère est dans la même pièce que moi, Je sais que je suis à fleur de peau et à vif, parce que c'est mon déclencheur principal absolu mondial. J'ai un mal fou à rester concentré sur mes émotions et mes besoins, parce que je suis happée et attirée comme un aimant par les procédures pendant 40 ans de « je suis responsable de ses émotions et de son état émotionnel ». Donc si vous travaillez ça en dehors de vos déclencheurs, si vous travaillez ça en dehors des situations qui vous font vriller, littéralement, c'est plus simple, c'est plus facile. Pratiquer un scan des émotions et des besoins, il y a un épisode entier consacré à ça, c'est le 69, pardon. Donc vous pouvez pratiquer ça tranquillement, voir quels sont vos besoins, voir quelles sont vos émotions, voir ce qui vous a déclenché, voir comment ça se joue en nous, voir ce qui est possible de faire comme stratégie. Peut-être que crier, à un moment donné, vous fera plus de bien que vous taire. Et c'est OK aussi. Quand il y a des gens qui se font agresser, on ne va pas leur dire de ne pas crier. Crier, ça a une fonction d'alerte, ça a une fonction d'expression. Maintenant, crier comme seul moyen d'expression, crier comme finalement limite de notre comportement parce qu'on n'a pas trouvé comment faire d'autre, n'est pas la seule solution. Il y a plein d'autres voies possibles. Il y a pu y avoir en classe, je me souviens d'une fois en classe, où c'était assez pénible ce jour-là parce qu'on n'avait pas pu sortir à cause de la pluie. Donc il y avait du bazar dans la classe, c'était des élèves de grande section, ils avaient 5 ans, il y en avait partout, rien n'était fini, rien n'était rangé, on n'avait pas avancé sur planning. Et ce jour-là, j'ai crié un bon coup en disant « Bon, on s'arrête tout de suite, vous venez vous asseoir, on va faire le point. » Donc j'ai crié un bon coup pour marquer un temps d'arrêt. Et après, on a explicité tout ce qui n'allait pas. Et on a dit que oui, on n'était pas sorti parce qu'il n'y avait plus, parce qu'on n'avait pas pu aller en récréation, parce que le gymnase était fermé. On a posé sur la table tout ce qui s'était passé et qui avait enclenché, qui avait eu comme conséquence un tel bazar et matériel et bruyant et émotionnel pour chacun. Ce qui fait que moi, j'étais agacée, eux étaient agacés, mon ATSEM était agacé. Et poser des mots sur les émotions de chacun, poser des mots sur les besoins de chacun. Il y a des enfants qui m'ont dit très posément « Bah oui, nous, on aurait voulu aller en récréation. » Et c'est super d'arriver à l'exprimer. C'est super d'arriver à dire qu'on ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait. Et je pense qu'une des grandes clés de libération émotionnelle, c'est d'arriver à dire comment on se sent à l'autre sans avoir peur de le décevoir, sans avoir peur de faire porter sur notre enfant et qui se sente responsable à son tour de notre propre émotion. De la même façon que quand vous criez sur votre enfant parce qu'il vient vous déranger quand vous êtes au téléphone, on peut regarder ça sur les deux collines. C'est normal que vous vous soyez dérangé. Quand vous êtes au téléphone, vous n'avez pas envie que votre enfant vous dérange. Mais votre enfant, à ce moment-là, lui, sa gestion du temps, elle n'est pas du tout comme la vôtre. À ce moment-là, il a fini son puzzle, il est trop content, il veut vous montrer son dessin. Il a envie de partager quelque chose avec vous sur sa rayure d'expression, sur sa rayure de relation. Donc si on se met sur sa colline à lui, votre enfant, à ce moment-là, il était heureux de venir vous déranger et il n'a pas vu à quel point ça allait impacter votre quotidien, à quel point vous allez le balancer en disant « Ça suffit, tais-toi, tu m'énerves !» Et j'ai déjà fait ça en mastermind. C'était à mon tour de parler en mastermind et j'avais ma petite qui venait me montrer son dessin en disant « T'as vu, j'ai mis du bleu, t'as vu, j'ai mis du bleu !» À ce moment-là, je voulais être concentrée sur le mastermind, sur mon intervention, sur la formatrice. Et en même temps, j'entendais le besoin de ma fille de partager, de communiquer, d'être en connexion. Ce qui veut dire que l'équilibre des besoins, l'équilibre des deux arcs-en-ciel sur les deux collines n'est pas toujours possible dans la douceur. Surtout si on n'arrive pas à le conscientiser en amont. Parce que votre enfant qui vient de vous déranger quand vous êtes au téléphone, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Et ça va sûrement arriver plusieurs fois dans votre moi. À chaque fois que votre enfant vient vous déranger, que vous êtes au téléphone et que vous l'envoyez promener ou vous lui faites signe ou vous le repoussez, qu'est-ce qu'il comprend de la situation dans la répétition? Soit il comprend dans la situation que vous n'avez pas de temps pour lui, à l'extrême, se sentir rejeté, abandonné, et ça ne va pas aller dans un lien sur le long terme très positif, mais sans noircir le tableau, on l'a tous vécu nous aussi quand on était enfant. Par contre, quand on a fini de téléphoner, au lieu d'avoir crié sur lui et de lui dire « Bon, je passe à autre chose, il a oublié. » Non, notre enfant, il n'a pas du tout oublié quand on a crié sur lui. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller le voir quand on a fini de téléphoner et lui dire « Écoute chérie, quand tu es venue me montrer ton dessin, quand j'étais au téléphone ou quand j'étais en ligne sur ma réunion Zoom avec mes collègues de travail, je ne pouvais pas te parler à ce moment-là parce que j'ai besoin d'être concentrée sur mon travail, sur ce que je dis. J'avais envie de savoir ce que tu voulais me dire, mais ce n'était pas le bon moment pour moi. » Donc, la prochaine fois, quand tu me vois au téléphone, tu peux venir devant moi et tu peux me demander avec les yeux ou avec un signe que vous faites, hein, si vous signez ensemble, ça peut être un signe que vous avez décidé. Ou alors, il vient juste poser la main sur votre poignet. Ça, c'est une technique dont parle Céline Alvarez dans son livre sur les lois naturelles de l'enfant, qu'on utilise en classe aussi. C'est que votre enfant, il vient juste poser la main sur votre poignet. Et vous convenez ensemble que si c'est le bon moment pour qu'il parle, vous l'autorisez en hochant la tête ou en mettant votre main à votre tour sur sa main à lui. Mais si ce n'est pas le bon moment pour vous, vous convenez d'un code en lui disant « Dès que j'ai fini, je reviens vers toi. » Que sa demande soit entendue, que son envie et son besoin soient considérés. Nos enfants, ils ont besoin de beaucoup de considération et d'écoute. Par contre, le timing n'est pas toujours idéal. Évidemment, quand vous êtes paisiblement dans votre bain et que votre ado débarque en disant « Oui, j'ai une sortie pour samedi, tu peux me dire oui tout de suite parce que je dois confirmer. » C'est pas le bon moment pour vous. Mais votre ado, elle a besoin d'entendre quelles sont vos limites. Quels sont vos besoins à vous? Option 1, je peux crier sur elle en disant « Laisse-moi tranquille, je suis dans mon bain, ferme la porte, tu me fais chier. » Tous les mots fleuris qu'on a pu entendre de nos parents, ou du quotidien, ou dans la rue. Quand vous voyez les gens se parler entre eux, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas trop dans la douceur et l'empathie au quotidien. Par contre, lui dire « Écoute chérie, j'entends que tu as une demande, eh ben, dans 30 minutes, je te rejoins dans ta chambre et on en discute. » C'est poser une limite en fonction de vos besoins du moment, de vos valeurs du moment, et du cadre de la situation. À chaque fois que je vais me mettre à crier, c'est que je n'ai pas trouvé une autre façon de faire autrement pour exprimer que oui, je peux entendre que l'autre a des besoins, mais que moi aussi mes besoins sont importants. Et dans cette génération de parents-là qui a entre 20 et 30 ans, qui découvre la maternité et qui se sent complètement étranglée par le nombre de choses à cocher sur la liste, le nombre de besoins à cocher sur leurs enfants, et que c'est incompatible avec la vie qu'ils avaient avant, ce qui est bien normal, puisque quand on devient parent, on change de prisme, on change de niveau, on change de level dans la vie quotidienne, ces parents-là ont une frustration et une impuissance qui s'installent très vite en disant « Mais j'ai l'impression que je dois choisir entre les besoins de mon enfant et les miens. » Que je dois choisir entre la vie de mon enfant et la mienne. Et tout ce qu'on va tisser en accompagnement, c'est de se dire, ton enfant a besoin de toi. Bien sûr, tu es une figure d'attachement, que tu sois son papa, que tu sois sa maman, il a besoin de toi. Mais ton enfant n'a pas besoin de toi à 100%. Ton enfant n'a pas besoin de toi H24. Tu peux déléguer ton autorité. Tu peux te faire remplacer par le coparent. Tu peux avoir une personne de confiance, que ce soit une nounou, que ce soit une maîtresse, que ce soit une babysitter, que ce soit la grand-mère. Les besoins de l'adulte, de la figure d'attachement, les besoins du papa, les besoins du maman, si on les met sous le tapis toute la première année de l'enfant, voire jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, puisque c'était le cas que j'avais aussi à Nanterre, il y a des mamans qui restaient en congé parental jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant, et qui se sont complètement sacrifiées et oubliées pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elles n'allaient pas faire de sport, elles ne sortaient pas entre amis, elles n'allaient pas dîner au restaurant en couple, parce qu'elles pensaient qu'élever un enfant, c'est H24, c'est 100%, et c'est les besoins de l'enfant qui sont prioritaires tout le temps. Suivant le stade où vous en êtes de la compréhension que les besoins de l'enfant sont aussi importants que vos besoins d'adulte, vous allez peut-être raisonner avec ce que je viens de vous dire, ou pas du tout, de voir à quel degré de compréhension vous en êtes, que cette notion de sacrifice qu'on peut faire miroiter, alors consciemment ou inconsciemment, notamment avec le patriarcat, c'est que les jeunes mamans peuvent s'oublier complètement dans leurs propres besoins jusqu'à provoquer des troubles, hein, vraiment, soit baby blues, soit de dépression postpartum, soit de burn-out parental complet, parce qu'elles en sont arrivées à une limite où leurs besoins à elles sont tellement sous le tapis qu'elles ne voient plus qu'elles ne vont pas bien. Elles ne voient même plus qu'elles avaient des besoins à elles. Alors, ce qu'on peut comprendre sur les 40 premiers jours, parce que la mise en place de l'allaitement, la mise en place du sommeil, la logistique, des repas, des sorties, des pédiatres, des vaccins, tout ça, c'est un bouleversement. Et au début, on ne va pas conseiller à une jeune maman de sortir un soir sur deux voir ses copines, parce qu'elle-même n'en a pas envie. Mais juste de garder à l'esprit que quand on se met à oublier qu'on avait des besoins, c'est aussi un risque d'un coup de dérapage, de cri, d'explosion, de débordement. Parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que ce petit être qu'on a chéri pendant des mois et des mois, Il y a une ambivalence qui se met en place en disant « mais je lui ai tout donné et il n'est encore pas content ». J'ai des mamans qui m'ont confié ce point de rupture où elles se disaient « je commence à reprocher à mon enfant d'être malheureuse ». J'ai ce point de bascule où je dis « je fais tout pour mon enfant, tout ce qu'on m'a dit dans les livres, tout ce que j'ai entendu dans les podcasts, tout ce que mon médecin traitant, ma belle-mère et tout ça, je coche tout et mon enfant ne va pas bien ». Et non, parce que notre enfant, il ne peut pas aller bien s'il sent que nous, on ne va pas bien non plus. Il y a une partie d'équilibre qui se joue aussi dans l'état des deux parties. Notre enfant, il va être bien quand on va le libérer de notre état émotionnel, quand on va lui assurer qu'on prend soin de nos besoins toute seule ou tout seul. Mais si on fait porter à notre enfant « t'es pas assez sage, je peux pas travailler tranquillement, c'est à cause de toi si on gagne pas d'argent, parce que je dois te garder toute la journée, parce qu'on n'a pas de nounou ». Est-ce que vous voyez l'ampleur de ce qu'on fait porter à un petit bout qui n'est pas du tout de son ressort? À aucun moment, on ne peut faire porter notre frustration, notre colère, notre tristesse, notre deuil au comportement de notre enfant. Et on l'a déjà fait. Et on le fera peut-être encore. Donc, il ne s'agit pas là de se mettre en tribunal et de dire « vous vous assurez pas les parents, vous êtes nuls ». Et c'est surtout pas le fait de dire que j'ai la solution à tout et que je ne le fais jamais. Il y a des moments où je sors une phrase à mes filles où je me dis « cette phrase n'était pas terrible, cette phrase n'était pas très bien tournée ». Parce qu'elle pourrait induire que je suis frustrée à cause de son comportement, que je suis triste à cause de sa réaction. Il ne s'agit pas de magifier, voilà un mot qui n'existe pas. Il ne s'agit pas de magifier notre comportement à partir d'aujourd'hui et de tout faire bien. Mais dans la mesure du possible, interrogez-vous sur quand vous avez envie de crier, quand vous avez envie de reprocher à votre partenaire, à votre enfant, à votre patron, à votre sœur, de vous envahir, d'avoir un comportement inattendu, de ne pas respecter l'attente imaginaire qu'on avait, l'objectif qu'on avait nous et qu'on n'avait peut-être même pas exprimé. Parce que soyons clairs, je reprends l'exemple du couple que j'ai abordé tout à l'heure. Quand on construit un couple avec quelqu'un, on a des attentes implicites qu'on n'a jamais verbalisées et pourtant dont on rend l'autre responsable. On pense qu'il aurait dû comprendre ceci, on pense qu'il aurait deviné cela, on pense qu'il aurait pu faire autrement pour nous satisfaire, pour nous faire plaisir. Donc plus on va expliciter comment on se sent, ce qu'on attend vraiment, quels sont nos besoins, quelles sont les stratégies qu'on utilise d'habitude pour nourrir ses besoins. Il y a des couples qui ont un fonctionnement atypique où une personne ne dort pas dans la chambre, une personne vit de nuit, une personne voit ses amis tous les week-ends, parce que les deux ont trouvé un équilibre pour nourrir à la fois leurs besoins en solo, en duo, en famille, en social, et c'est propre à chaque couple. Donc la méthode magique qui suffirait de dire et de croire que quand on se met en couple, l'autre va comprendre instantanément nos besoins, qu'on sera plus jamais frustré, qu'on sera plus jamais en colère, ça ne marche pas non plus. Dans la parentalité, c'est pareil. Notre enfant va, à certains moments, nous décevoir. Mais je vous invite à ne jamais le considérer comme « c'est mon enfant qui m'a déçu ». En réalité, ce n'est pas mon enfant qui me déçoit. C'est l'image et l'attente que j'avais de son comportement ce jour-là, compte tenu de toute son expérience des 3 dernières années et de tout ce que j'avais mis en place. Et bien, ponctuellement, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce résultat. Et aujourd'hui, je suis déçue. Mais je ne suis pas déçue de mon enfant. Je suis déçue de la croyance que ça allait rouler comme si de rien n'était. Hop, je l'ai fait une fois, il va le refaire tout le temps. J'ai posé la règle une fois, il va la refaire tout le temps. J'ai un papa récemment qui me disait « Mais Séverine, je passe mon temps à répéter les règles. Moi, je suis fatiguée, ça m'agace de répéter tout le temps. » Je dis « Bah oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait à quel point c'est agaçant de répéter et de répéter. » Mais de la même façon que quand vous avez vu une construction de maison autour de vous, ben on répète le même geste. On répète le même geste jusqu'à ce que le mur soit monté. C'est le même geste pour toutes les briques et on repose une brique et on repose une brique. L'éducation de nos enfants, c'est « je te donne la règle, je te donne le cadre, je te donne la limite, je te donne les conséquences. » Et on recommence. « Je te donne la règle, je te donne le cadre, je te donne la limite, je te donne la conséquence. » Plus nous, on va être stable et au clair sur les consignes et sur les règles, et les règles, c'est l'épisode 22, je crois, sur comment poser des règles à notre enfant sur le podcast, c'est que plus elles sont claires, plus elles sont cohérentes, plus elles sont explicites, mais surtout par rapport à notre vie, il ne s'agit pas d'installer des règles à la maison qui n'ont rien à voir avec votre vie personnelle, plus l'enfant va se dire « Ok, bon, bah ça c'est le cadre dans lequel j'évolue. On me l'a répété, c'est stable. » Donc dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre-là, je vais pouvoir expérimenter, tester, jouer au petit scientifique, voir les actions et les conséquences de mes actions au quotidien. Mais c'est vous, l'adulte, qui allez poser ces repères-là. Et une autre des situations que j'avais aussi en classe, quand les mamans venaient à mon bureau pour partager ce qui se passait, donc c'était des enfants de 2 à 3 ans. Quand elle me disait à la maison, je ne comprends pas, vous me dites qu'à l'école, il écoute, qu'à l'école, ça se passe bien, mais à la maison, il n'arrête pas de faire des bêtises, il n'arrête pas d'aller au-delà de ce que je pose comme limite. Je leur demande de m'expliciter comment elles posent des limites. Et en fait, parfois, les limites, pour elles, c'est venir gronder quand l'enfant a dépassé le comportement attendu. Et quand je leur dis, mais est-ce que vous aviez expliqué comment on utilise ce matériel? Est-ce que vous aviez expliqué que le canapé, c'est uniquement pour s'asseoir et qu'on pose les pieds par terre? Elle dit, bah non, c'est évident. Je fais, mais rien n'est évident avec un enfant. Un enfant, quand vous allez lui montrer une nouvelle pièce dans une maison, vous allez pouvoir lui expliquer tout ce que vous attendez de lui. La première fois qu'on offre une boîte de crayons de couleur ou une boîte de feutre ou une paire de ciseaux à un enfant, on lui explique où est-ce qu'il peut l'utiliser, sur quel matériel, dans quel endroit, à quelle heure. Sinon, votre enfant, c'est normal qu'il écrive sur les murs. C'est normal qu'il découpe les rideaux. Lui, son but, c'est d'expérimenter, c'est de tester, c'est de voir dans quel contexte tout est applicable. C'est à vous de décider s'il a le droit ou non avant qu'il ait le matériel. De la même manière que quand vous allez lui montrer la première fois la chaise haute, vous allez lui dire, la chaise haute, c'est très important parce que comme ça, tu vas pouvoir manger en toute sécurité. La chaise haute, on met les pieds par ici, on met les bras par ici. La chaise haute, on y reste assis. Et si un jour tu veux monter tout seul, tu demanderas à maman, tu demanderas à papa. On lui donne le mode d'emploi de l'action qu'il a le droit et de ce qu'il n'a pas le droit. Parce que comme ça, il a le cadre de référence. Comme ça, il ne va pas s'éloigner, mais il ne peut pas les inventer, ces règles-là. Il n'a pas la maturité d'inventer un règlement qui, pour nous, paraît évident. Et les toutes premières fois où j'ai compris ça, j'avais pas eu de petites sections encore. Les petites sections, c'est vraiment les enfants de 3 ans qui arrivent à l'école pour la première fois. Et j'avais eu beaucoup de grandes sections, de CP, de CE1. Et une fois, je viens observer en stage une maîtresse de petite section. Et là, je la vois en train d'expliquer à des enfants que pour se laver les mains, on frotte d'abord le dessus de la main, et après entre les doigts, et après. Et je la regarde et je lui dis, mais c'est à toi d'expliquer tout ça, mais c'est pas le programme scolaire. Elle dit, bah, bien sûr que c'est pas le programme scolaire, mais les enfants, personne ne leur apprend à se laver les mains. On pense qu'ils savent le faire, mais ils ne savent pas le faire, parce qu'on ne leur a pas expliqué comment on prend le savon, où est-ce qu'on met la main. Et ensuite, ces protocoles, ces explications, ils vont pouvoir les transférer sur des choses scolaires. Comment on fait de la peinture, comment on utilise le tube de colle, comment on utilise un classeur. Quand on voit les enfants en CP, on s'étonne de leur manque d'autonomie. Mais ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas eu les étapes, ils n'ont pas eu les sous-gestes et les sous-compétences qui leur ont permis de grandir en maturité pour ensuite savoir faire ça tout seul. Nos enfants, ils ont besoin de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'ils ont le droit de toucher ou non, et de savoir qu'on sera là au cas où pour les aider et les soutenir. Ça, c'est notre boulot. Et si on veut moins répéter et moins crier, ben, je nous invite à expliciter ça dès le début. Voilà mon chéri, là on est dans ta chambre. Dans ta chambre, tu peux prendre tous les jouets qui sont dans ce tiroir, tu peux aussi jouer avec les objets qui sont dans cette case-là, et tu peux prendre les livres qui sont ici. Voilà tout ce que tu as le droit de faire. Et ensuite, s'il y a des objets qu'il n'a pas le droit de toucher tout seul, vous lui expliquez. Vous lui expliquez, pour ce jeu-là, tu appelleras maman ou papa. Pour cet objet-là, c'est que quand il y a un adulte. Donnez-lui les codes, donnez-lui les explications, donnez-lui le mode d'emploi, et vous n'aurez plus à crier, puisque les bases seront posées. Quand on crie, c'est qu'on pense que l'autre avait déjà compris tout ça et qu'il aurait dû le faire spontanément. Et ça ne marche pas dans le couple, ça ne marche pas non plus dans l'éducation. Et au travail, ça marche moyennement aussi. Ce qui fait qu'on en arrive vers des comportements un peu déviants, que quand on ne veut pas crier sur l'autre, bah, on balance des petites phrases perfides, des petites piques en douce en disant, ah oui, bah ça, évidemment, il a fait ça, nanana. Parce que nous-mêmes, on est frustrés parce qu'on n'avait pas explicité notre besoin à la base. Donc, comme bien souvent, hein, et si vous écoutez les replays du club ou si vous écoutez le podcast, je vais vous ramener à ces deux éléments fondamentaux pour moi qui sont plus je connais mes besoins et plus je connais mon fonctionnement d'émotion, moins je fais porter ma frustration sur quelqu'un d'autre, donc moins j'ai besoin de crier. Je n'ai plus besoin de crier quand je suis dans un état émotionnel où je me dis Ce qui se passe en dehors de moi n'est pas toujours de ma responsabilité. L'action de mon enfant n'est pas contre moi, mais juste liée à son développement et à son envie d'expérimenter. Ce que les autres posent comme acte, que ce soit des adultes ou des enfants, ne sont pas complètement dépendants de ce que j'ai comme vision du monde. Et c'est très normal. Vous allez vous promener dans la rue tout à l'heure, vous allez observer les gens. Les gens ont des comportements parfois étranges par rapport à ce que vous pensez, alors que pour eux, c'est tout à fait naturel. Donc il y a un petit peu d'impermanence à remettre dans cette situation, un peu d'altérité aussi et de singularité, puisque chacun autour de nous, que ce soit sur Clubhouse ou dans la vraie vie, ont des besoins et ont des déclencheurs d'émotions différents. Et ça peut être même interprété pour deux personnes différentes de deux manières différentes. On a vécu la même room là ensemble, mais vous avez sans doute compris des choses différentes à des moments différents. Parce que vous avez pensé à votre enfant, parce que vous avez pensé à votre conjoint, parce que vous avez pensé à votre belle-mère. Et donc ça vous a ramené à un système de croyances et d'habitudes que vous avez, vous, qui se greffe sur votre expérience. Et nos enfants, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont appris une petite base de données parce qu'on leur a expliqué A, B, C, droite, gauche, on leur a appris des couleurs, mais ils n'ont pas fait le lien entre ce contexte-là et un autre. En didactique, en pédagogie, on appelle ça transférer les connaissances. On appelle ça changer de support, diversifier les domaines d'apprentissage. Les enfants qui venaient dans ma classe à 2 ans ne savaient presque rien faire seuls parce qu'on les considérait tout simplement comme des bébés. Et au bout de 2 mois, quand ils savaient faire tout ce qu'ils savaient faire dans la classe, les parents venaient me voir en disant « Mais comment vous avez fait tout ça ? Mais comment ils savent faire tout ça ?» Je dis « Mais je leur ai expliqué, point par point, comment on roule un tapis, comment on range une caisse de Lego, comment on met un livre à l'endroit, comment on met son manteau. » Les enfants sont capables de comprendre et d'apprendre à une vitesse qu'on ne conçoit pas. Il faut le voir pour le croire. Et 22 ans d'observation des enfants me portent à penser qu'on est loin du compte encore. Les enfants, on pourrait leur apprendre tellement de choses depuis leur 1 an jusqu'aux 5 ans. C'est de la maltraitance de ne pas faire confiance à l'enfant dans sa compréhension du monde. Si vous expliquez à votre enfant comment on fait une omelette, si vous expliquez à votre enfant comment on plante des légumes, mais dans une semaine, il s'en rappelle et il pourrait le faire tout seul. Parce qu'il a compris pourquoi vous le faites, comment vous le faites, quels outils vous utilisez, quels sont vos gestes, quelles sont vos actions, quel est le lexique. Quand on fait un projet jardinage, quand on fait un projet cuisine, que ce soit à l'école ou à la maison, votre enfant, il s'imprègne de votre intention, de vos besoins, de votre méthodologie, de votre pensée, de votre façon de faire. Et c'est comme ça qu'il apprend l'enfant. Il apprend en vous observant. Il apprend en voyant la cohérence entre ce que vous lui dites et ce que vous faites. Et pour en revenir au thème d'aujourd'hui, les vacataires qu'on accueillait parfois à l'école maternelle, qui viennent faire la cantine et qui viennent surveiller les enfants le midi, qui se mettent à hurler dans le couloir en disant « Arrêtez de crier !» Ça m'a toujours fascinée. Mais je voyais ça chaque année. Ça veut dire que les vacataires arrivent en disant « C'est moi l'adulte, c'est moi l'autorité, les enfants vont m'obéir, les enfants vont m'écouter. » Si on veut que notre enfant nous écoute, coopère et comprenne ce qu'on lui dit, en criant, ça ne va faire que le sidérer. Ça ne va faire que l'arrêter dans son action. Ça ne va pas lui faire développer ses compétences et sa compréhension du monde. Si on lui crie dessus de ne pas crier, comment voulez-vous qu'il comprenne le message ? Vous êtes vous-même en train de crier. Et c'est la même façon que certains parents ne faisaient pas encore le lien au premier, deuxième, troisième entretien qu'on avait, quand ils m'expliquaient très froidement qu'ils mettaient une claque à leur enfant ou ils mettaient une fessée à leur enfant quand ils faisaient des bêtises ou des caprices à la maison. Il m'a fallu plusieurs séances et plusieurs ateliers de parentalité pour leur faire comprendre que quand leur enfant ensuite tapait dans la cour quelqu'un avec qui il était en désaccord, il y avait un lien direct de domination avec ce qu'il voyait à la maison. Un enfant sur lequel on crie, sur lequel on frappe, comprend que pour asseoir son pouvoir et sa domination et son autorité, on peut donc crier et on peut donc taper. Et malheureusement, certains adultes n'en sont pas remis de ça. On voit dans les faits divers, toutes les semaines, des gens qui ne savent pas faire autrement que crier, hurler, taper, tuer. Ce qui veut dire que ce qu'on induit très tôt dans ces enfants-là, dans cette génération-là, c'est que celui qui crie le plus fort a raison, celui qui tape, celui qui soumet, celui qui domine a raison. Alors, c'est sans doute pas, comme moi, l'idée que vous vous faites de l'éducation, mais qu'est-ce qu'on incarne comme modèle pour que ça change au quotidien? Les enfants qui, à la maison, écoutaient leur maman, ah, je vais vous raconter un beau souvenir parce que j'ai une maman qui m'a dit ça une fois. Elle m'a dit, Séverine, hier, ma fille est venue me voir et elle m'a dit, Maman, tu es triste, je vois que tu pleures, est-ce que je peux t'aider? Et la maman, elle a fondu en larmes en me racontant ça. Elle me dit, Séverine, j'aurais jamais imaginé que mon enfant puisse comprendre mes émotions et puisse essayer de m'apporter de l'aide. Et en fait, cette maman-là, elle était tellement habituée à tout garder pour elle et à ne pas exprimer en fait ce qu'elle vivait, que ce soit sa propre fille qui lui dise, Maman, tu as l'air triste, je vois que tu es en train de pleurer, est-ce que je peux t'aider? C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu elle-même dans sa vie de femme. Ça veut dire que quand on demande à quelqu'un comment il se sent, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Parce qu'on ne va pas lui faire porter nos frustrations, nos émotions, nos attentes, et on va lui permettre d'exprimer et d'expliciter comment ça se vit en lui. Et si vous vous rapprochez de la communication non violente dont je parle tout le temps, c'est en ça que le lien se crée et la communication se crée. Si j'arrive en criant sur vous, si j'arrive en criant sur mon enfant, je vais juste lui montrer que je suis dépassée par ce que je vis intérieurement, que je ne suis pas capable de faire autrement parce que je suis frustrée, en colère, triste ou agacée ou coupable, ou que je me sens coupable, mais que ça n'a rien à voir avec lui. Comment est-ce qu'il peut se relier à moi alors que moi-même, je ne me suis pas reliée à ce que je vis intérieurement, à ce que je ressens intérieurement? Donc c'est comme ça que j'ai réussi au tout début à rentrer en empathie avec les parents qui criaient sur leurs enfants, avec les parents qui punissaient leurs enfants. Et je la raconte souvent cette anecdote, mais il y avait un papa qui a été élevé à la dure, qui avait été élevé aux Antilles et qui était lui-même chicoté, puni dans son armoire. On lui disait de se taire, en gros qu'il n'avait pas la voix à la parole. Ce papa, quand il a été papa pour la première fois, il a été papa de jumelles. Et pour lui, c'était ses premiers enfants. Et la maman avait déjà d'autres grandes filles. Donc la maman n'a pas pris beaucoup de temps pour élever les petites dernières, parce que les grandes étaient déjà élevées, et donc elles n'avaient qu'à faire comme les grandes. Ce qui fait que ces deux petites, qui en plus étaient jumelles, hein, donc on rajoute en plus le critère de gémellité, qui est déjà pas facile pour des enfants à comprendre. Donc le papa, il a fait comme il pouvait, mais ayant vécu ça et n'ayant pas travaillé son héritage parental, et je parle de ça dans l'épisode 74, il a reproduit, en résumé, ce qu'il croyait être une autorité parentale. Quand sa fille faisait un comportement qui ne lui plaisait pas, pour exemple dans l'épisode 67, il la mettait dans l'armoire pour qu'elle se calme. Il lui criait dessus pour qu'elle se calme. J'ai lié un lien de confiance avec ce papa. Au bout du deuxième rendez-vous, il m'explique que donc il punit sa fille en l'enfermant dans l'armoire. Sa fille avait 2 ans et demi. Il m'a fallu beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion pour expliquer à ce papa comment se sentait sa fille à ce moment-là, sa fille qui cherche un lien d'attachement à son parent, qui cherche à comprendre le monde, qui cherche à être en sécurité et à être entourée de compréhension et de considération. Au moment où elle se retrouve dans le noir, dans l'armoire, avec un père qui lui crie dessus, je pense que le lien a du mal à s'établir. Mais est-ce que vous voyez la difficulté de faire comprendre ça à quelqu'un qui lui-même a vécu ça quand il était petit? Qui lui-même n'a pas eu cette compréhension de ses propres besoins et de ses propres envies et actions. Ce qui fait que pour déconstruire qu'il n'a pas besoin de punir ses enfants, qu'il n'a pas besoin de crier sur ses enfants, tout simplement parce qu'il a juste à comprendre le développement et les besoins de ses enfants, mais aussi ses besoins à lui et ses émotions à lui, mais en 2 mois, la situation était complètement réglée. Et ce papa, je l'ai croisé pendant plusieurs années, maintenant ses filles sont en CM1. Et à chaque fois qu'il me croisait, il me disait, vous avez créé une relation père-fille, voilà, je ne pourrais jamais assez vous remercier. Parce que de déconstruire ce qu'il a vécu lui en devenant père, d'arrêter de crier, d'arrêter de taper, de croire que l'autorité, c'est se montrer plus fort que ses enfants, que se montrer plus fort que ses enfants, c'est ça être un parent et c'est ça être dans l'autorité parentale. Pour lui, ça a été une révélation. Et évidemment, les filles ont été reconnaissantes parce qu'on l'avait travaillé en classe. Ça veut dire que vos enfants, quoi qu'il en soit, que ce soit difficile avec vous, que ce soit difficile avec le coparent, si vous êtes séparés, parce que c'est aussi des situations que j'entends en séance, quand les parents se séparent et que l'autre personne n'a pas le même mode d'éducation que vous, ça devient compliqué de faire comprendre à l'enfant que oui, les règles ne sont pas pareilles tout le temps, que oui, le monde extérieur n'est pas pareil qu'à la maison. Et dans ce cas précis, les jumelles, qui étaient dans ma classe, les deux, je leur expliquais qu'on a d'autres façons de parler qu'en criant. Mais comment je leur expliquais ça? Mais je leur expliquais en le faisant dans la classe. En disant, bah tu vois, quand Iliès a renversé tout le bol de sable par terre, alors que j'ai expliqué 3 fois que le sable, c'est dans le bac à sable, je pourrais crier sur Iliès. Mais ça ne sert à rien de crier sur Iliès. Je vais aller me mettre à la hauteur d'Iliès, je vais lui dire, Iliès, je t'avais expliqué que le sable, il restait dans le bac. Alors viens, on va prendre la pelle et la balayette, tu vas ramasser le sable, parce que sinon on va glisser dessus, on va tomber, et je voudrais que le sable soit en sécurité dans le bac et que les enfants ne tombent pas. Mais crier sur Iliès à ce moment-là en disant, mais je t'ai déjà dit que le sable, c'est dans le bac. C'est ce qu'on pourrait faire tous, parce qu'on est excédé de répéter, parce qu'on en a marre de répéter. Ça ne va pas aider Iliès à comprendre. Où est-ce qu'on veut que le sable soit? Ça ne va pas aider Iliès à comprendre que les adultes sont là aussi en considération. Donc oui, il arrive un moment où la répétition va nous agacer. Il arrive un moment où si Iliès le fait pour la 12e fois dans la même matinée, vous allez lui dire, écoutez, là les enfants, j'ai expliqué le sable, ça fait 3 fois qu'il y a du sable par terre. S'il y a encore du sable par terre, je ferme le bac à sable. Vous allez prendre des mesures et vous allez mettre des conséquences en place. Mais en aucun cas, crier sur Iliès à ce moment-là ou crier pour exprimer à quel point vous vous êtes dépassé par la situation ne va aider Iliès à grandir et ne va aider les autres enfants de la classe à comprendre comment on fait autrement qu'en criant. Crier sera toujours une stratégie possible sur votre éventail de stratégies. De la même façon que la télé sera toujours un moyen d'occuper un enfant. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur et ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et le fait de crier sur un enfant pour lui expliquer à quel point on a raison, je reboucle sur cette idée qu'on a abordée tout à l'heure, c'est que si j'ai besoin de crier pour affirmer mes arguments, si j'ai besoin de crier pour soumettre mon autorité et que mes arguments en eux-mêmes ne sont pas assez forts pour que l'autre les comprenne, je peux me remettre en question. Dans un rapport d'éducation, si je n'arrive pas à expliciter en quoi cette règle est importante pour moi, en quoi c'est important pour moi qu'il n'y ait pas de sable par terre ou que les enfants arrêtent de crier pendant 2 heures parce que je suis en visio, c'est que je n'ai pas été très claire sur ma consigne, que je n'ai pas été assez explicite sur mes besoins de silence pendant ma visio. Alors que si vous lui dites « aujourd'hui tu es à la maison parce que tu es malade », ça ne va pas être très facile parce que moi j'ai une réunion à 14h avec mon patron. Donc à 14h, je vais t'expliquer très précisément comment ça va se passer. À 14h, je vais aller dans la chambre avec mon ordinateur et tu ne pourras pas venir me parler parce que c'est très important pour moi cette réunion. Quand j'aurai fini ma réunion, je reviendrai avec toi dans le salon et on pourra jouer ensemble. Mais tout ça, il faut le poser avant la réunion. Parce que sinon, votre enfant va venir pendant la réunion, vous parler, vous allez crier, vous allez vous énerver, vous allez lui montrer exactement le comportement que vous n'avez pas envie de lui montrer, à savoir que vous êtes débordé par votre émotion, alors que vos arguments sont très clairs, vous les connaissiez déjà avant la visio. Vous aviez déjà pressenti que si jamais il venait pendant la visio et que vous êtes en train de présenter votre dossier à votre patron, qui en plus en ce moment il y a des tensions au boulot, ça allait faire boule de neige, ça allait contaminer émotionnellement et vous et votre enfant. Et que vous auriez bien du mal à rester calme. Donc, en anticipant ça, et c'est en ça que la conscientisation des besoins de l'enfant et des vôtres est aussi primordiale dans la relation pour pouvoir installer une communication calme, non pas calme parce qu'elle doit être toujours calme, mais calme parce qu'elle peut s'anticiper sur bien des domaines. Et si on reprend l'exemple du restaurant tout à l'heure, vous auriez pu vous mettre à la hauteur de l'enfant qui s'impatiente parce qu'il y a une file d'attente dans le restaurant et lui dire « c'est vraiment pénible d'attendre. Hein. Je comprends que ça t'ennuie vraiment d'attendre. Écoute, j'ai un livre dans mon sac. Est-ce que tu veux lire ton livre en attendant que la file d'attente avance ? » Mais anticiper, ça veut dire se dire « je ne pourrai pas garantir à tout moment que les besoins de mon enfant seront satisfaits. Je ne peux pas garantir à tout moment que mes besoins d'adulte seront satisfaits. Par contre, dans la mesure du possible, je ne vais pas opposer les uns aux autres. Je ne vais pas dire à mon enfant « tu as tort et j'ai raison. » Et je ne vais pas dire non plus à mon enfant « j'ai tort, tu as raison. » À un moment donné, que ce soit en communication non violente ou en éducation empathique, on peut très bien expliquer « pour l'instant, je n'ai pas encore la solution à ce problème ». Mais quand tu cries dans le salon pendant que je suis en réunion dans la chambre, moi, ça ne me convient pas. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Si tu veux crier, tout à l'heure, on ira au parc et tu pourras crier. Vous voyez, en posant des observations, en posant le contexte, en explicitant les besoins de l'adulte et en explicitant les besoins de développement de l'enfant, on peut arriver quasiment toujours à une solution où les deux sont entendus, où les deux sont considérés et où on n'est pas obligé de crier. Mais je vous invite à voir que les prochaines fois où vous allez crier, ce sera peut-être plus un mode d'expression pour visibiliser ce que vous vivez intérieurement sur votre arc-en-ciel de besoin, dans votre cheminée des émotions, plutôt que de croire que c'est la solution en soi. La plupart du temps, quand on se met à crier, c'est qu'il y a quelque chose qui déborde et qu'il y a quelque chose qui veut être entendu, et que comme on ne sait pas l'entendre de nous à nous en intérieur, comme on ne sait pas encore bien scanner ce qui se passe en nous, dans nos flammes d'émotion et dans nos besoins qui clignotent sur notre arc-en-ciel de besoin, on essaye de le faire porter à la personne en face, on essaye de l'évacuer par des moyens un peu maladroits, par des stratégies maladroites, dit Marshall en communication non violente, alors qu'on pourrait faire autrement. Le fait qu'on laisse un enfant crier à un moment, c'est que cet enfant n'a pas compris qu'il y avait d'autres modes d'expression. Les enfants qui criaient dans ma classe le faisaient pendant une semaine et c'était vite réglé. Parce que quand on lui répète toute la journée que même si tu cries, tu n'auras pas, même si tu cries, ça ne changera pas mon idée, même si tu cries, la règle va être stable, mais l'enfant arrête de crier au bout d'un moment. Et les mamans étaient étonnées. Et les papas étaient étonnés de me dire, mais il crie pas dans la classe. Je fais, mais non, il crie pas dans la classe. Il a vu que ça ne servait à rien, que ça ne marcherait pas. Donc je suis pas en train de dire que si votre enfant crie à la maison, vous avez fait quelque chose de mal. Je suis en train de préciser que si votre enfant continue à crier, c'est qu'il pense que ça va marcher pour obtenir ce qu'il veut. Donc il y a peut-être eu plusieurs moments, plusieurs itérations où ça a marché et où l'enfant a conclu que quand on crie, on obtient. C'est encore dans l'inconscient collectif que celui qui crie obtiendra. Je vous invite à reconsidérer que parfois ça peut marcher et parfois non. Et qu'en éducation, plus on va laisser notre enfant crier pour obtenir, plus on va le légaliser, valider le fait que plus tard, quand il aura envie de quelque chose, il pourra crier pour l'obtenir. Malheureusement, ce qu'on voudrait pour nos enfants plus tard, c'est qu'ils obtiennent des choses sans se mettre en vrac, sans se mettre à hurler. Que ce soit dans leur relation de couple, que ce soit dans leur relation amicale. Je pense que sur vos amis proches, sur votre partenaire de vie, vous préférez peut-être les moments où vous n'êtes pas en train de vous crier dessus. Et que c'est plutôt un aveu d'impuissance, quand on se met à crier sur quelqu'un, c'est qu'on est à court d'arguments et que nos objectifs sont tellement éloignés de ce qu'on est en train de présenter à l'autre, qu'on ne peut plus s'en sortir qu'en criant. Encore une fois, hein, je vous dis ça en toute humilité parce qu'il m'a fallu crier sur mes élèves, il m'a fallu crier sur ma première fille pour me rendre compte à quel point ça ne servait à rien. Ça dispersait mon énergie sans avoir aucun effet positif. Et le fait de crier ou non ne dit pas que vous êtes un bon ou un mauvais parent. Le fait de crier dit juste que vous avez considéré que ce mode d'expression vous rapportait plus d'avantages que d'inconvénients. Je ne suis pas sûre. Et ça, on peut le poser ensemble aujourd'hui. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de crier pour vous faire entendre, c'est que la relation est mal posée. À chaque fois que vous entendez quelqu'un vous crier dessus et que l'autre considère ça normal de vous crier dessus, c'est quelque chose dont la relation n'a pas été bien posée. Et j'en reviens aux limites qu'on a abordées tout à l'heure. Si vous considérez que quelqu'un qui vous crie dessus a raison, je vous invite à arrêter ça tout de suite. Quand quelqu'un me crie dessus, je le regarde dans les yeux, je lui dis: j'accepte pas que tu me cries dessus. Quand tu seras plus calme, on en reparlera et je quitte la pièce. Que ce soit mon enfant, que ce soit mon conjoint, que ce soit un collègue, que ce soit un voisin, je n'accepte aucune personne qui me crie dessus. Déjà parce que j'ai une tolérance au bruit qui est assez faible avec les années d'enseignante. Vraiment, je supporte quasiment plus le bruit. C'est pour ça que sur Clubhouse, je trouve ça toujours génial que les gens s'écoutent, s'entendent et que les rooms où tout le monde se crie dessus, je sors tout de suite. Mais en réalité, si quelqu'un vous crie dessus, c'est que lui-même n'a pas compris que vous méritiez le respect et l'écoute et la considération. Et que crier, c'est une forme de violence également, que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc si un ami me criait dessus un jour, je lui dirais: écoute, je crois que tu es dans un état émotionnel difficile pour toi, je peux t'écouter si tu veux, mais ne crie pas sur moi, je ne suis pas responsable de ton émotion. Je peux t'apporter beaucoup d'écoute et de soutien, mais si tu me cries dessus, moi je m'éloigne. Je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Soit on baisse d'un ton et on parle correctement, normalement, ou même on ne parle pas et on va se promener. Tout ne passe pas toujours par le langage. Par contre, les cris ne sont que très rarement la solution idéale pour sortir de quelque chose. On l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, mais à part une situation de grand danger ou une situation où intérieurement, si on sent qu'on ne crie pas, on va faire un burn-out immédiat tout de suite. Et j'ai déjà entendu des mamans me dire, je m'enferme dans les toilettes pour aller crier. Eh bien, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Allez au parc, allez crier ensemble, allez crier avec vos enfants. Dites à vos enfants que vous avez besoin d'extérioriser ce qui ne va pas. Mais crier, c'est pas non plus une tragédie. Crier, c'est pas non plus un acte répréhensible ou honteux. Crier, c'est une façon d'extérioriser tout ce qui ne va pas en nous. Bonne semaine à tous et puis à très vite. J'espère que cette room a pu t'apporter d'autres pistes, des pistes complémentaires et supplémentaires aux outils des autres épisodes du podcast. Je te laisse mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast pour soutenir mon travail et le visibiliser. Retrouve toute l'actualité des Petits Plus Zen dans le lien de cet épisode ainsi que sur Instagram et Facebook. À très vite, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!